Bonjour, c'est Olivier Delacroix.
Europe 1.
Ces dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes qui m'ont bouleversé. Dans mon nouveau podcast « Dans les yeux d'Olivier », je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs témoignages rassemblés par Europe 1 Studio. Pour les écouter, c'est très simple. Il suffit de taper « Dans les yeux d'Olivier » sur votre plateforme d'écoute préférée.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que pour les spécialistes et amoureux du football, vous avez vécu une belle soirée de Champions League, que vous soyez supporter de Lille, qui reste dans la course bien évidemment, mais que vous soyez aussi supporter de Manchester United par exemple, ou de la Juventus, puisque je sais que certains d'entre vous partagent la passion de ces grands clubs, et bien la soirée a été bonne. Pour les autres, ceux qui, footballistiquement parlant, ne sont pas accros, ne souffrent pas de cette addiction. J'espère que la journée a été bonne et que vous n'avez pas trop attendu votre libre antenne. Pour nous joindre, 39 21 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez vos SMS en n'oubliant pas de signer ces SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Et puis vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe de parole sur Facebook, Olivier Delacroix, la libre antenne. Voilà, sans plus tarder, puisque nous commençons en 23h30, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Marie-Claude au 39-21. Bonsoir Marie-Claude.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Marie-Claude. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ?
Alors, j'ai 66 ans et j'appelle de Fréjus.
De Fréjus, la belle région de Fréjus. Vous avez quel temps là ? Parce que ça souffle beaucoup chez nous, ici à Paris.
Aujourd'hui, il a fait un peu plus gris que d'habitude, mais bon, on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres régions. Hein.
Oui, oui.
Il y a pire.
Il y a pire, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi, Marie-Claude.
Alors, moi, ça fait déjà un petit moment que je vais vous appeler parce que je vous suis tous les soirs. Et j'arrive. Ma mère est décédée l'année dernière, en mars 2020, du Covid. Mmh. Elle était en EHPAD. Elle est tombée malade. Ils n'ont pas voulu la tester. Oui. Ils l'ont mise sous oxygène. Et elle est décédée toute seule sur son lit parce qu'on n'avait pas le droit de la voir. Enfin bref, les restrictions du confinement et tout ça. Mmh. Donc, maman est décédée toute seule. Ils l'ont laissée sur son lit pendant 3 jours en attendant que les services funéraires viennent la prendre en charge.
Avec une non-autorisation pour vous de voir le corps de votre maman.
Voilà.
Mais pourquoi ?
Personne n'a le droit de la voir à cause du Covid.
À cause du Covid. Du confinement. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de traverser les couloirs.
Rien du tout. Elle est partie toute seule.
Quelle horreur.
Sans accompagnement et tout ça. Mmh. Et moi, depuis le mois de mars 2020. Je dis qu'on m'a volé les funérailles de ma mère.
Oui.
C'est un vol. Parce que on m'a privé d'aller la voir, on m'a privé de la mise en bière, on m'a privé de la crémation. Et moi, habitant en Fréjus, je n'ai pas pu aller. Du fait qu'on était confinés, ça faisait trop loin, je n'ai pas pu aller ne serait-ce qu'au cimetière. Et en fait, les funérailles de maman, c'était la remise de l'urne et basta.
Oui.
Voilà. Et ça, je trouve ça...
C'est terrible.
J'ai du mal.
Oui, c'est terrible.
J'ai énormément de mal, je ne peux pas. Donc, je me fais un film, certainement, mais je ne sais pas si elle a été mise dans un cercueil. Je ne sais rien. Je n'ai pas le déroulement du... de la procédure qu'ils ont faite, quoi.
Comment vous a-t-on tenu au courant de ce qui se passait ? D'abord, est-ce qu'on vous a tenu au courant de ce qui s'est passé pour votre maman ?
Non, en fait, on nous a dit qu'elle était malade, mm-hmm. qu'elle avait une gêne respiratoire. Mm-hmm. Donc, on a demandé à ce qu'elle soit testée. Ils n'ont pas voulu.
Oui.
On n'est pas dingue, vous savez, hein, quand les gens sont décédés du Covid, ce sont des gens qui n'ont pas, au départ, hein, je parle, hein, mm-hmm. au départ, ils n'ont pas été comptabilisés dans les décès du Covid. Hein.
D'accord, oui, je comprends.
Donc,
oui.
en
oui,
fait, oui. Le certificat de décès, c'est insuffisance respiratoire.
Insuffisance respiratoire, d'accord.
Voilà. Et alors, on sait très bien que c'est le Covid, mais bon. C'était comme ça au départ, hein. C'était au début de la pandémie. Et voilà, bon. Mais bon, moi, je ne digère pas, j'ai du mal à... Je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire. J'en ai parlé à mon psy, il m'a dit que ça serait très long parce que je ne peux pas matérialiser ces funérailles, en fait.
Je pense que ce qui va être très compliqué pour vous... Malheureusement, c'est de faire quelque chose parce que la loi a été votée hein, par rapport à tout ça et malheureusement, je pense que ça va être très compliqué de revenir, en tout cas d'attaquer, vous voyez, parce que
non, mais enfin, je cherche pas à attaquer. Enfin, je suis pas procédurière. C'est pour moi, pour mon fort intérieur et. Pour pouvoir faire mon deuil, quoi.
Ouais, ouais.
Il y a du travail, il faut que je travaille, quoi, là-dessus, et c'est dur, quoi.
Oui, je comprends que ça soit... Oui, je comprends que ça soit très dur, mais que voulez-vous entamer, en fait, comme procédure ou comme démarche par rapport à tout ça ? Dites-moi, Marie-Claude.
Bah, rien, je suis toute seule, rien
ouais,
du tout.
Rien.
J'ai besoin de parler, donc
oui.
j'en parle à mon psy. Bon, mm-hmm. je vous en parle à vous, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Hein.
Non, on a déjà eu au moins deux appels sur ces conditions de décès de personnes touchées par le Covid.
Ouais. Ouais.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, on ressentait la violence subie par les proches, parce que c'est malheureusement affreux.
Là, je revois des images que je n'ai pas vues, en fait. Je sais qu'ils l'ont laissé sur son lit, dans la housse,
oui.
en attendant que les pompes funèbres viennent le chercher. Ça, jusque-là, je sais.
Mm-hmm.
Bon, enfin, elle est restée quand même trois jours
même
sur
ça,
son
c'est...
lit, dans la housse.
Voilà.
Quoi.
Même
bon,
ça,
déjà,
c'est
ça,
très
c'est
violent.
Ouais. Voilà. Et après, la prise en charge pour le funérarium, le crématorium et tout ça, on ne sait pas. On a eu... mes frères et sœurs ont eu rendez-vous au cimetière et on leur a remis l'urne. Puis voilà, basta. Terminé. Moi, je suis très choquée et si je vous ai appelé, en fait, c'est pour vous donner mon désarroi. Et puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, quoi.
Je pense qu'il y a d'autres personnes, bien évidemment, qui vivent... comme nous le dit Annie au 739-21, des expériences comme celle-ci, des décès comme cela. Elle vous dit combien elle vous comprend, hein, parce que la fin de vie toute seule, avec aucune possibilité de voir votre mère, Annie nous dit qu'elle trouve ça inhumain pour tout le monde.
Ah oui. Et puis bon, est-ce qu'elle est partie dans la dignité, dans l'intégrité ? Il y a plein de questions qui reviennent, et moi, c'est journalier, hein, ces questions. Hein.
Vous avez. Comment cela s'est-il passé pour les funérailles ? Nous demande Jean qui évoque le moment où le Covid était au plus fort et où c'était compliqué. Comment ça s'est passé pour les funérailles pour votre mère ?
J'en sais rien. Je vous dis, nous, on avait rendez-vous à moins de 10 au cimetière et on nous a remis l'urne et basta.
Et c'est tout ?
Et c'est tout. Et on a mis l'urne dans le caveau et puis c'est tout.
D'accord. Vous n'avez même pas pu assister au crématorium
Rien du tout. Ni à la mise en bière, rien du tout.
Ça, c'est assez incroyable quand même, non ? Parce qu'à partir du moment où votre maman était, je suppose, dans un cercueil ou en tout cas dans une protection pour l'emmener au funérarium, Il y a là quand même. Elle n'était pas en plus contaminée au. Elle était contaminée au Covid, votre mère.
Ouais. Ouais, mais bon, si vous voulez, moi je dis carrément, c'est peut-être violent ce que je vous dis, hein, mais bon, on nous a volé
les moments,
funérailles. Hein.
Là, bien sûr. Bien voilà, sûr, hein. Bien sûr.
Je partage
complètement votre avis, Marie-Claude.
Ouais, sans parler du préjudice matériel, hein, c'est le préjudice moral, là, hein, c'est pas... Mais bon.
C'est-à-dire que dans tout ça, en fait, Marie-Claude,
oui. C'est
vrai que c'est assez... Alors, après, voilà, que vous ne puissiez pas aller voir votre maman comme des milliers hein, de personnes dont les proches sont hospitalisés ou en EHPAD, c'est bien évidemment très difficile, mais toutes les familles sont soumises au même régime, si vous voulez.
Oui,
mais
ça,
à partir du moment où votre mère était souffrante, je pense qu'on pourrait imaginer hein, au moins une procédure qui permette aux proches, même éloignés, vous voyez, avec une protection, de voir...
Et
c'est assez étonnant que ça ne soit pas... Alors, je parle... par rapport à ce que j'ai vu hein, jusqu'à maintenant. Peut-être est-ce le cas dans certains établissements hein, qui organisent cela au mieux, mais je crois que d'une manière générale, ça n'est pas organisé, ce type de choses.
Non, c'est-à-dire déplacer,
vous voyez, votre maman dans une aile, ou en tout cas à l'extrémité d'une aile, que vous puissiez la voir par la fenêtre ou avec une protection.
Ah ouais, non, mais la configuration ne le permettait pas, hein, de toute façon, ça c'est clair. Mais moi je vous dis, ils l'ont laissé sur son lit et puis ils ont attendu qu'ils viennent, que les pompes funèbres viennent le chercher, quoi.
Mmh.
Et voilà. Mais maintenant je pense que, bon, ça fait quand même un an et demi que le plus gros du confinement est passé et que maintenant dans les EHPAD ils sont relativement au fait maintenant. Et je ne sais pas maintenant comment ça se passe, s'il y a des gens contaminés qui décèdent à l'intérieur des EHPAD. Mais si ça existe encore comme ça, c'est très soudain. Hein.
Oui, c'est... Et malheureusement, ça n'est pas parti pour s'arrêter, hein, ou en tout cas pour s'améliorer.
Vous avez... Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Puis bon, je ne sais pas si on nous dit tout correctement.
Qu'entendez-vous par là, Marie-Claude ?
Bah, ce que je dis, c'est que par rapport à la pandémie, c'est pas mal étouffé. Il va y avoir les élections, donc il y a des choses beaucoup plus médiatisées, quoi.
Mmh.
Que l'avancée du Covid ou quoi que ce soit. On subit, de toute façon.
Alors,
on n'a pas le choix.
On subit une pandémie. Donc, cela, je ne sais pas quel est votre positionnement, quel était votre positionnement avant cette épreuve, hein, et avant que vous soyez contraint d'être éloigné de votre mère. Mais il y a une pandémie, il y a eu ces vaccinations, et force est de reconnaître que ça a plutôt marché.
Oui. Bah moi, de toute façon, je me suis fait vacciner. Hein. Mm-hmm. Mon mari aussi. J'ai incité mes enfants à se faire vacciner. J'ai une fille qui est en Nouvelle-Calédonie et qui sont en plein dans le rush.
Oui, ça n'est pas la même chose là-bas.
Voilà. Mm-hmm. Et bon, ça y est, elle a pris la décision, elle s'est fait vacciner. Je suis soulagée par rapport à ça. C'est vrai qu'on a avancé par rapport au vaccin. Mais bon, regardez ce qui se passe en Angleterre. Le Delta, il y a encore un variant du Delta qui tombe en Angleterre. Donc, est-ce qu'on va vraiment s'en sortir ? C'est ça le truc.
Non, je pense que, vous savez, au début de la pandémie, on a entendu, par exemple, les compagnies aériennes. J'ai des amis qui travaillaient comme chef de cabine à Air France sur les longs courriers. Et ils ont reçu fin juin, je crois, un mail qui leur disait que le trafic ne reviendrait à la normale que pour 2024.
Oh oui, c'est pas étonnant.
Et lorsque on entendait ce type de choses, on se disait mais non, c'est pas possible, ça va. Vous savez, on n'a jamais connu vraiment c'est une pandémie comme celle-là. Donc, on était plutôt optimiste par rapport à ça parce qu'on ne voulait pas y croire. Parce que dans les films, tout finit toujours bien, en tout cas pour ce genre de choses. Mais là, au final, lorsqu'on entendait des spécialistes nous dire qu'on était parti pour des années, finalement, on ne voulait pas y croire. Mais maintenant, ça va faire. Ça fait plus de deux ans que nous sommes dedans. Hein. Et je pense qu'on est parti pour. Oui, pour un autre fonctionnement. Je pense que ces masques vont durer un moment. Je pense que.
Ouais.
Alors, quand on a connu. Quand on a connu le confinement total, quand on a connu le couvre-feu, je crois qu'aujourd'hui, on est alors, on est plus.
On est pas mal à reconnaître que ça va mieux. Pas mal. Ouais, on est pas mal quand même. Mais... Enfin, moi, je vois à Fréjus, bon, à part quand on rentre dans les magasins ou des choses comme ça, on doit mettre le masque, mais sinon.
Oui, alors c'est contraignant, mais c'est quand même mieux.
Ouais. Oui.
On va marquer une petite pause, Marie-Claude, si vous voulez bien, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
D'accord.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h47 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez composer le 39-21. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Beaucoup de réactions par rapport à votre message, votre témoignage, Marie-Claude. Annie nous dit encore, je pense qu'on aurait pu faire en sorte d'organiser des visites. Combien de familles ont et vont devoir subir cela? Finir sa vie dans ces conditions, c'est terrible et il va falloir penser les choses autrement. Jean nous dit dure période que celle passée par nos défunts du Covid. J'espère que Marie-Claude pourra faire son deuil. Et puis, il y a un texto qui n'est pas signé. Ma maman est décédée à l'hôpital où elle a eu le Covid. Nous ne l'avons pas vue, sauf un quart d'heure la veille de son décès. Et même dans cette situation, c'est très dur. Rapprochez-vous de l'association Tenir la main. Alors, je ne connais pas cette association, mais peut-être que Florian ou Julia vont m'en dire plus dans quelques secondes. Mais c'est ce que je vous disais, vous voyez, Marie-Claude, il y a quand même quelques initiatives, visiblement, qui sont prises par certains établissements qui estiment que c'est inhumain de ne pas pouvoir approcher, réconforter, épauler celle ou celui qui est en train de partir. Maintenant, il va falloir gérer. Marie-Claude, vous m'avez dit que vous voyez un psychothérapeute pour tenir le coup.
Je vois un psychiatre, oui, parce que je suis suivie pour dépression et bon, ça m'arrange pas, quoi.
Alors, tenir la main, Marie-Claude.
Oui.
Sachez que si vous continuez à évoquer cela avec des amis, des proches qui peuvent être eux aussi touchés et dans cette même situation, tenir la main est un collectif pour organiser les visites des patients touchés du Covid. Le droit de visite.
Ah, d'accord.
Pardon, le droit de visite. Donc, vous voyez, ça.
Ok.
Voilà.
Ouais, écoutez, pourquoi pas.
Je vous souhaite bon courage, en tout cas, Marie-Claude.
Merci beaucoup, Olivier.
Et puis, on pensera bien à vous dans les jours qui
viennent.
Merci,
c'est très gentil.
On
vous
embrasse.
Merci de m'avoir reçu et permis de parler.
Je vous en prie. Au revoir, Marie-Claude.
Merci beaucoup. Au revoir.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
23h49 et nous accueillons Joël au 39-21. Bonsoir Joël.
Oui, bonsoir,
bonsoir.
Olivier. Bon, à mon sujet par rapport à ce que vous avez parlé, c'est pas grand chose.
Mais pourquoi dites-vous ça? Parlez-moi avant et puis chacun appelle, vous savez, sur cette libre antenne pour un sujet qui le préoccupe.
Là.
Alors ne soyez pas impressionné. Regardez devant vous, respirez un bon coup et n'imaginez surtout pas que la France entière vous écoute.
Ah non, j'y pense même pas là parce que j'ai pas écouté la radio alors.
D'accord.
Pas du tout pour l'instant. Oui, alors ça fait des années que nous avons acheté, mon mari et moi, une maison là. Nous vivons dans la région de la Palisse, dans l'Allier.
Oui.
Une très belle région d'ailleurs.
Nous le pays de la vérité.
Oui, c'est ça, c'est le château, le beau château, là.
Oui.
Moi, le château de la Palisse, là, c'est une belle région, là. La nature est belle et tout, on est vraiment bien. Mais bon, c'est la maison qui correspond pas du tout, là, parce que ça me crée beaucoup de problèmes, parce que ça fait des années que j'ai eu pas mal de problèmes de santé, j'ai la fibromyalgie, et je suis hyper sensible, et... Et dans cette maison, on vit dans une maison à sous-sol et à l'étage, quoi. Et ben, je suis mal à l'étage, quoi. Et j'ai compris une chose, que entre l'étage, ça paraît peut-être un peu bête, hein, mais je veux dire, entre l'étage et le sol, il y a l'espace, le vide, quoi.
Et alors,
ben, c'est ce que je ressens, et je ne suis pas bien du tout.
Oui.
Je ressens l'espace, quoi. Et faut que je vive à plein pied.
De plein pied.
Voilà, c'est ça, faut que je... même le sol, quoi, dans une maison à plein pied. Et
est-ce que c'est nouveau chez vous, ça, Joël, ou est-ce que c'est venu il y a peu de temps?
Bon, ça, c'est certainement de très longtemps, je crois même depuis ma naissance. Mais j'ai toujours vécu au-dessus d'une cave, au-dessus à l'étage et tout. Et je ne comprenais pas tous mes malaises et tout. Et j'ai fait une petite enquête et tout. Enfin, j'ai essayé de comprendre. Puis il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées là. Je suis tombée à l'intérieur de la maison, j'ai manqué d'étouffer au début là, mais je ne sentais plus l'air du tout, avec le manger à l'intérieur de ma gorge, quoi.
Oui.
Ça passait plus du tout. Et puis dès que je me mets en face, il y a 3 semaines, je suis encore tombée dehors, il y avait une maison qui m'intéressait, et mon mari dit oh, ben, y a une cave. Et moi, pour vérifier, je me mets devant la cave parce que je ressens les trous, vous savez.
Le vide.
Voilà, c'est ça, le vide. Et je me suis mis devant cette maison et tout de suite, mes jambes, ben, j'ai reçu des fourmillements, tout ça, et voilà. Bon, je me suis ôtée, je suis repartie pour faire ma marche. Et puis, au bout d'un moment, je me suis entravée dans mes pieds, quoi. Je me suis tombée face contre terre, quoi. Voilà, j'ai saigné à plein, enfin bon.
Et pourquoi avoir acheté cette maison alors?
Ben, parce qu'elle n'était pas chère, puis c'était une belle maison.
Oui.
Mais bon, je veux dire, on n'y connaissait rien. Et je veux dire, cette maison a besoin de rénovation et tout. Et pour l'instant aussi, en plus, elle nous crée beaucoup de dettes, quoi, en plus. Parce que toute la retraite, mon mari, il passe pour payer l'électricité, quoi.
Oui.
Parce qu'on dormait dans une chambre, là, c'est très bon, une très belle chambre, il y avait 22 degrés, moi je me gelais, j'avais froid.
Oui, oui.
Et j'avais peur dans cette chambre, c'est pas normal, j'y pense, c'est pas normal. Puis d'ailleurs, cette maison nous a fait séparer, mon mari et moi, on vit séparés, mon mari vit dans une autre maison, à quelques kilomètres, parce que moi je peux plus m'occuper de l'étage comme je voudrais. Et je peux même plus à peine faire à manger.
Oui.
Enfin, avant, je vois personne, je peux plus recevoir personne, je vois plus ma fille non plus depuis des années. Et je connais à peine ma petite fille. Et je voudrais trop qu'on trouve. C'est pour ça que c'est pas facile pour trouver une maison sur Internet. Il y a que à plein pied à la campagne parce qu'il y a beaucoup de caves.
Oui.
Et moi, il ne me faut pas de cave. Et je ne peux pas habiter non plus dans un village parce que je ressens les caves des autres. C'est ça le problème. Et je ne comprends pas d'où ça vient, ça.
Mais oui, d'accord. Ben, depuis, vous m'avez dit avoir fait une enquête. Donc depuis, est-ce que vous avez trouvé déjà que vous souffriez donc de ce vide ça fait appel à quoi? Vous ne vous l'expliquez pas, ça, en fait. C'est depuis l'enfance, m'avez-vous dit?
Ah oui, moi je crois que c'est depuis la naissance, hein, parce que j'ai pas été réanimée tout de suite, et il y a eu un truc, hein, pas, enfin, bon, c'est comme ça, hein, bon, mais comme les ascenseurs, j'ai toujours eu des problèmes, je peux pas monter les escalators, il fallait tout le temps que je prenne les escaliers et tout, il y a qu'à plan pied que je suis bien, je sens rien du tout, quoi. Voilà, s'il y a un trou, par exemple, je sais qu'il y a un trou, quoi.
Oui.
Ou alors en ville, c'est pareil. Si, par exemple, je me trouve en face, parce qu'il y a énormément de trous, vous savez, sur les trottoirs et tout, bon, ben, je vais m'enlever, quoi. Puis voilà. Enfin, bon, je veux dire, c'est pas vivable, parce que de toute façon, enfin, je trouve un moyen pour trouver quelqu'un pour me soigner, parce que ça. Et en plus, ça me crée beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup d'infections de la tête aux pieds, quoi.
Du pus. Comment ça?
Eh ben, j'ai Parce que je veux dire, quand je suis à l'étage, mes organes, c'est comme si, ils s'arrêtaient de fonctionner normalement, quoi. Je veux dire, j'ai vécu à l'étage pendant un certain nombre d'années où on habitait dans la Loire et je sortais pas beaucoup. J'avais peur de tout, ah, mais vraiment peur de tout. À la fin, avant de venir ici, je n'osais même plus sortir dehors, mettre les pieds sur le sol, quoi. C'était arrivé, je marchais à peine. Il a tout fallu que je refasse un cheminement pour remarcher petit à petit, mètre par mètre, mais c'est épouvantable. Maintenant, je fais des kilomètres tous les jours, mais je marchais pratiquement plus, j'avais plus de force et tout, parce que je suis restée trop longtemps à l'intérieur d'une maison, parce que je voulais plus aller dehors, quoi. J'avais peur.
Bon, alors, y a deux choses dans ce que vous m'expliquez, Joël. Il y a, en tout cas, il y a deux solutions ou deux options possibles. Le fait que vous habitiez dans cette maison et que vous ayez des manifestations visiblement cutanées, voilà, des infections, que vous ayez peur du vide, que vous ayez des angoisses, il faudrait peut-être que vous
Ah,
fassiez
mais je fais beaucoup de choses. Je fais de la méditation, je fais de la marche et tout. Ça me fait du bien. Ça me permet de tenir. Et
Mais
puis, autrement, je ne viendrais pas là.
écoutez ce que je veux vous dire. En fait, vous savez que parfois, il y a dans les maisons, sous les maisons, des courants, des rivières souterraines.
Ah, mais là, il n'y a rien. On a fait vérifier.
Ah bon?
Non, mais ben, j'ai biologue. Tout va bien.
D'accord. Donc, ça n'est
Mais
pas.
justement, où on habitait avant, il y avait une faille. Et là aussi, j'ai vécu l'horreur, quoi. C'était horrible. J'ai bien cru que j'allais y passer. Hein. D'ailleurs, j'étais vraiment très affaiblie. Hein.
Est-ce que vous voyez quand même un psychologue ou quelqu'un aussi pour toutes ces angoisses? Est-ce que.
Ah, mais l'angoisse, ça va. Je suis angoissée quand je suis à l'étage. Mais autrement, dehors, je veux dire, quand je suis au fond, au sous-sol, parce que je vis au sous-sol, et ça va. Je vis dans une pièce de 30 mètres carrés qui n'est pas isolée. Là, en ce moment, il y a les courants d'air, mais c'est à cause du vent, là, ou le froid, et ça passe, parce que c'est pas isolé. Alors, je ne dis pas, je suis encore heureusement que je vis seule, parce que
Bah
c'est
écoutez,
pas chaud.
je pense déjà qu'il faudrait envisager de déménager.
Eh bien, oui, c'est justement, c'est depuis des années, on essaye de trouver une maison, là, à plein pied, c'est pas facile, c'est pour ça que je vous appelle pour nous aider
À
parce
trouver
qu'on recherche.
une maison de plein pied.
Voilà, c'est ça. Et on voudrait une maison ancienne, plein pied, parce que mais sans cave et pas de puits, de puits non plus, il faut que ça soit un compteur aussi, un compteur normal. Parce que j'ai encore un problème, c'est que le compteur Linky, je ressens. Dans la thyroïde directement, et ça, voilà.
D'accord, vous ressentez le compteur. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer une pause déjà. On va laisser passer
Expliquer.
l'info sur Europe 1 et puis on va continuer d'évoquer ce dont vous souffrez, de toutes ces angoisses, de toutes ces sensations. Et puis on va essayer surtout de trouver une solution. À tout de suite, Joël, d'accord?
D'accord.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Joël. Joël qui souffre de plusieurs pathologies, on va dire, des angoisses. Des infections dues finalement à ce vide, Joël, mais ça n'est pas que le vide, hein, puisque vous dites souffrir depuis votre enfance de tout un tas de choses. Et cette maison que vous avez acquis avec votre mari. En tout cas, vous l'avez loué, vous la louez ou vous l'avez acheté?
Acheté, malheureusement.
Acheté, d'accord.
Oui, je voulais dire aussi, je ressens aussi, par exemple, si une personne est bien ou pas bien. Je veux dire, si elle est angoissée, si je peux ressentir à travers une personne si quelqu'un est décédé. Ça m'est arrivé, ça, en visitant une maison, et franchement, c'est pas bien du tout.
D'accord.
C'est ce que je ressens.
Bon. Deux choses, Joël. Est-ce que la première chose, c'est est-ce que vous voyez un psychothérapeute ou un psychiatre?
Ouais, j'ai besoin d'aller voir un psychothérapeute.
Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi? Dites-moi. Dites-moi pourquoi. Pourquoi vous estimez comme ça?
Parce que moi, quand je parle beaucoup trop, je préfère écrire. J'ai écrit depuis des années.
Et ça n'a rien à voir, Joël. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que vous avez besoin, en tout cas, que ce serait bien pour vous d'aller voir soit un psychologue, soit un psychiatre.
Non, pas de psychiatre.
Mais c'est
la même
chose.
Mais je fais de la marche et puis j'ai compris pourquoi. Parce que j'étais déracinée aussi. C'est pour ça que j'avais peur d'aller dehors.
Et vous pensez que parce que vous êtes déracinée, parce que vous ressentez toutes ces...
Non, parce que maintenant, j'y suis plus, là.
D'accord. Mais toutes ces choses que vous ressentez, moi, je vous le dis, mais après, vous prenez les choses comme vous voulez. En plus, quand je vous dis un psychiatre ou un psychologue, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de psychiatres qui donnent des séances qui sont exactement les mêmes que des psychologues. Psychiatre ne veut pas dire... que vous souffrez d'une pathologie ou qu'on va vous donner des médicaments, vous tombez sur des psychiatres avec qui vous parlez, avec qui vous échangez, et il vous permet d'évoluer, de cheminer, en fait, vous voyez, et d'ouvrir des portes qu'obligatoirement vous n'allez pas voir toute seule. J'entends par là que les angoisses que vous vivez, obligatoirement...
Je suis pas du tout angoissée quand je suis au fond, quoi. Je suis dans une maison à plein pied, je serais pas du tout angoissée, au contraire. Hein.
Vous m'avez dit que vous étiez très angoissée tout à l'heure.
Oui, quand
Joël.
Je suis à l'étage, quand je reste trop longtemps.
D'accord.
Quand je reste trop longtemps, ça va pas du tout. Ça me sert de partout, de la tête aux pieds. Il faut que je descende vite. Et quand je redescends, ça va beaucoup mieux dans ma tête, quoi.
D'accord. Et donc,
voilà.
Ce soir, je vais vous dire, je vous propose ça parce que je pense que vous en avez besoin. Maintenant, vous avez l'air de faire un blocage par rapport à ça.
Non, mais pas du tout. Mais je sais que ce que je ressens, et c'est une chose que je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Mais moi, ce que je pense plutôt, c'est que j'ai besoin d'aller voir un ostéopathe parce que c'est plutôt mon foie qui a un problème, quoi.
D'accord.
C'est
bon, alors, allez voir un ostéopathe si vous pensez
que
c'est...
Oui, après, quand je serai partie d'ici, c'est sûr que je vais y aller.
La bonne chose. Bon, et vous m'appelez pourquoi ce soir? Donc, pour faire un appel, pour trouver une maison?
Oui, passer une annonce, parce qu'on n'arrive pas à trouver... Il y a trop de maisons anciennes qui ont des caves, ou alors une grange qui peut être aménagée en maison aussi. Mais avec un compteur normal, avec une arrivée d'eau, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne mettent pas toutes les maisons ou granges sur Internet, quoi. Ils pensent...
Bon, donc vous cherchez une maison. Donnez-moi un périmètre, s'il vous plaît.
Ancienne, plein pied, dans la région de la Palisse, la Clé, ou Maillet-de-Montagne, ou le Donjon, hein.
D'accord. Écoutez, l'appel est lancé, on a bien compris. On vous transmettra bien évidemment toutes les personnes qui nous donneront leurs coordonnées et qui veulent vous proposer une maison. Vous pouvez compter sur nous. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de courage. Réfléchissez à ce que je vous ai dit par rapport au fait d'aller voir peut-être un thérapeute. Et puis, j'espère bien évidemment que vous allez vite trouver une autre maison, et de plein pied pour le coup, car ce vide, bien évidemment, semble vous poser beaucoup de problèmes. On vous embrasse bien fort, Joël, et n'oubliez pas de nous donner des nouvelles.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est minuit 13 sur Europe 1 et nous accueillons Laetitia au 3921. Bonsoir Laetitia.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis très émue de vous parler.
Ah bon?
Oui.
Bon, ça va aller, vous allez voir.
Ça fait quelques temps que je me posais la question de savoir si j'allais vous appeler ou pas. Voilà, ça fait pile un an, puisque j'ai eu un accident de moto le 20 octobre dernier. avec ma fille dessus.
Oui.
On nous a coupé en fait la route, tout simplement. Heureusement, ma fille a réussi à s'éjecter et bon, bah, c'est moi qui ai encaissé l'accident de plein fouet.
Oui. Comment ça s'est passé exactement en fait?
En fait, j'étais sur une route principale. Il y avait un cédé de passage sur la droite.
Oui.
Et la personne était au cédé de passage et ben, je pense qu'elle m'a pas vue.
Oui.
Elle a pas mis dans son état d'esprit qu'il y avait une moto qui pouvait arriver. Elle voyait que voiture.
Mm-hmm.
Et d'un seul coup, elle s'est engagée. En fait, elle a voulu couper la route pour tourner en fait d'un côté. Et ben, moi, j'ai pas eu le choix. En fait, je pouvais rien faire, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que quand elle a accéléré, c'était trop tard. Je savais que l'accident allait arriver.
D'accord.
Et
au final, donc vous m'avez dit que vous avez pris ça de plein fouet. Vous avez été gravement blessé.
Alors j'ai eu la chance d'être. Alors j'ai été blessé, oui, pas gravement. Je pense que voilà, comme j'étais pompier volontaire à l'époque, je faisais beaucoup de sport, donc ça m'a certainement beaucoup aidé. Bon, par contre, j'ai encaissé le coup, le choc. Vraiment de façon frontale, donc ça veut dire que tout s'est réveillé. En fait, une fois que toutes les assurances étaient faites, que voilà, enfin les torts étaient vraiment à 100% pour lui et qu'on m'a dit maintenant vous pouvez vous reposer, en fait c'est là où toutes les pathologies sont sorties. Le corps, comme bizarrement, en fait pendant 48 heures a pris sur lui et
oui.
a fait ce qu'il devait faire.
Mmh.
Et en fait voilà, j'ai eu des pathologies qui en soi sont pas graves aujourd'hui par rapport à ce que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Et c'est, en fait, je me dis que c'est rien du tout. Moi, je me suis relevée de cet accident, même si ça a été pour moi un choc psychologique très dur, parce que j'ai l'impression qu'on m'a mis un stop en fait dans ma vie. Cette voiture qui me coupe la route, c'est comme si en fait elle m'avait mis un stop, parce que j'étais licenciée en plus par rapport à ça suite à mon travail. Donc j'ai tout perdu en fait.
Oui.
En plus, cette personne-là qui, soi-disant, se disait de bonne foi, finalement a fait traîner les choses parce qu'elle savait qu'elle était complètement en tort. Donc ça a duré des mois avant que je puisse être indemnisée un minimum au niveau corporel, parce que j'ai quand même été brûlée au troisième degré, enfin j'ai quand même eu des brûlures, enfin voilà.
Mm-hmm.
Bon, après, ma fille va bien, donc ça c'est le plus important, elle n'a rien eu. Elle a eu des bleus, donc on a fait constater, mais en soi, voilà, elle est prête à remonter sur ma moto, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc ça s'est passé en octobre. De suite à ça, j'ai pas demandé d'aide à personne parce que je pensais pouvoir être assez forte pour pouvoir le vivre seule. Et en fait, je me suis un petit peu, un peu le syndrome de l'enfoncement, c'est-à-dire que j'ai arrêté de manger, en fait, j'ai arrêté de m'alimenter. Parce que comme on m'avait coupé la route, j'avais perdu mon travail, je me disais, mais en fait, tu ne mérites pas de vivre, on t'a fait ça, et en fait, pourquoi est-ce que tu mériterais de vivre plus? Parce que quelque part, tout ce qu'on t'entreprend, on te met toujours des bâtons sur la route, et celui-ci, c'est un gros obstacle. Alors, je suis cavalière, je suis monitrice d'équitation,
oui.
Donc je sais très bien qu'il faut toujours dépasser l'obstacle et passer par au-dessus, mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois, et au moment de Noël, où il a fallu que je retrouve ma famille à Paris, j'avais prévenu mes parents que physiquement, qu'ils n'allaient certainement pas me reconnaître. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, mes parents ont été... Ma mère a failli tomber dans les pommes quand elle m'a vue Noël. Et puis, c'était chez mon frère... c'était chez ma sœur, pardon. C'est ma sœur qui a accueilli la famille. Et il y avait mon grand frère, notamment, qui était là. Et ils avaient dans l'idée de m'aider, voilà, donc ça partait plutôt d'un bon sentiment. Donc j'ai eu toute confiance en eux, je me suis complètement livrée à eux sur tout ce que j'avais vécu pendant cette année, la douleur physique, le fait de perdre 20 kilos, j'étais un squelette ambulant, je tenais pas debout, il fallait à côté de ça que je gère mes 3 enfants, que j'ai géré toute seule malgré tout, parce que j'ai un papa qui est absent. Et donc voilà, le 24 au soir, ça avait beaucoup bu de leur côté, l'alcool aujourd'hui, pour moi, ça devient vraiment quelque chose que je supporte pas. Mais il m'avait mis en confiance. Et le 25, quand il a fallu que je reparte sur Aix-en-Provence, mon frère et ma sœur se sont levés de table et m'ont interdit en fait de repartir sur Aix-en-Provence. Où là, en fait, ils m'ont pris toutes mes affaires, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris mon sac à main, mon téléphone, ma carte bleue. J'avais prévenu un taxi. Mon frère est allé payer le taxi, il a renvoyé le taxi. Mon père était là, et il a assisté à la scène, mais d'une violence extrême. C'est-à-dire que mon frère était complètement incontrôlable, ingérable, sous l'effet de l'alcool. Et mon père a essayé de s'interposer. Mon père, qui a 73 ans et qui est général dans l'armée, donc il y a quand même toujours une droiture et qui nous a toujours éduqués, enfin voilà, avec le respect de la famille et de nos parents. En fait, mon frère ne s'est pas gêné de le pousser contre le mur et de lui dire « Maintenant, toi, tu sors de chez moi, je ne veux plus te voir et Laetitia, on va la gérer. » Et donc, voilà. Et là, le calvaire a commencé. Donc, mon père m'a dit en pleurs. Mon père était en pleurs. Moi, j'étais en pleurs. Je suppliais de le ramener avec lui là où ils habitaient, eux. Et mon père m'a dit « Écoute, si je le fais, je pense que ton frère va devenir violent aussi avec moi et ça va terminer en catastrophe. » Donc mon père est parti, mais il savait très bien que j'étais en danger. Et en fait, mon frère n'a rien trouvé de mieux que de me dire « Voilà, t'as perdu 20 kilos, on ne peut pas te laisser comme ça. Mais sous l'effet de l'alcool, attention, je répète bien parce que c'est très important. Hein, vraiment un facteur qui est très important. Donc on va t'amener dans des hôpitaux psy et on va te faire interner. » Voilà. Donc, ils m'ont trimballé le 5 au soir dans 3 hôpitaux différents où j'ai dû raconter mon histoire à chaque fois.
Mais et où les psychiatres. Et où ils étaient avinés comme ça ils avaient bu le soir où ils vous ont emmené à l'hôpital comme ça?
Ils avaient bu, oui. En fait, ils ont bu, c'est bien simple, ils ont commencé le 24 sur les coups de 16-17 heures et ils ont terminé le 25 à 4 heures du matin.
Et j'ai envie de vous poser une question. Vous ne m'avez pas dit quel âge vous aviez, Gaëlle ?
J'ai 43 ans.
D'accord. Pourquoi avoir suivi votre père et votre frère ? Pourquoi ne pas avoir ne pas s'être opposé à cela ?
Alors, mon père ne voulait pas que je parte avec mon frère. Mon père, en fait, lui, il a été jeté en fait, dehors de chez ma sœur par mon frère. Oui. Donc, il a été obligé de rentrer chez lui. Et moi, en fait, je me suis opposée. Mais en m'opposant, en fait, mon frère est devenu violent.
D'accord.
Donc du coup, en fait, pour ma protection, et mes enfants étaient là, donc mes enfants étaient victimes, enfin, ont vu toute la scène. Donc imaginez-vous votre mère se faire maltraiter comme ça par quelqu'un de sa famille. Enfin, c'est juste terrible. Et donc il y a un moment pour éviter, même pour protéger mes enfants, j'ai dit à mon frère, j'ai dit bah écoute, de toute façon je vais te suivre, mais je pense que je connais les réponses des hôpitaux. Donc, ils m'ont amené dans 3 hôpitaux différents. Et les 3 hôpitaux leur ont dit clairement, ben, il est hors de question qu'on l'interne parce que votre sœur est complètement cohérente et sa perte de poids est complètement compréhensive par rapport à l'accident qu'elle a vécu, sachant qu'en plus, il y avait sa fille avec elle et que c'est,
ah oui.
Voilà, que c'est quelque chose qui m'a traumatisée,
oui,
en fait, sur le
vous
moment.
A, qui vous a fait sans doute culpabiliser un maximum, je suppose.
Ben, je suis passée par toutes les étapes, en fait. Oui, bien sûr, quand je vois ma fille encore aujourd'hui, quand je pense à cet accident, et encore quand on a eu l'accident, elle est venue me voir tout de suite, moi j'étais par terre allongée, elle me dit « Maman, t'inquiète, on montera sur la moto hein. ». Elle a 16 ans, elle est grande, hein, donc, mais heureusement, elle n'a pas été abîmée, mais elle m'a vue en fait par terre, sous la voiture, avec la moto, donc je pense que c'est quand même des choses qui marquent les enfants. Et à Noël, bah, j'espérais trouver un peu de réconfort auprès de ma famille.
Oui.
Et voilà. Et en fait, le 25, l'alcool aidant, bah voilà. Donc j'ai fait la tournée des hôpitaux le 25 au soir, du côté de Fontainebleau. Donc c'était génial. Et quand ils ont vu que personne ne voulait de moi, bah, mon frère en fait m'a remis dans la voiture. Il y avait ma sœur également qui était là. Et là, pendant 20 minutes sur le trajet du retour, bah heureusement, déjà, j'ai eu présence d'esprit d'enregistrer en fait ce qu'il était en train de me dire. Je me suis fait insulter de tous les noms, comme quoi j'étais une maman qui était complètement, qui était pas, enfin, moi qui me suis toujours occupée de mes enfants toute seule, je les ai élevés toute seule. Je devenais la pire des mères et je devenais vraiment un paillasson sur lequel. Enfin, il fallait. J'étais plus rien en fait. On m'avait tout enlevé. On m'avait tout pris. J'avais plus rien. J'avais plus de téléphone. J'avais plus de carte bleue. J'avais plus de vêtements. J'avais plus rien. Et quand on est rentré, bah du coup, j'ai pas eu le choix que de rentrer chez ma sœur. Ça a duré encore au moins bien une demi-heure, où là, mon frère m'en a remis encore une couche en me disant « Oui, ouais, on est allé chez dans les hôpitaux, tu nous as fait passer pour des menteurs, personne n'a voulu de toi. » Mais j'ai dit « Mais Stéphane, j'ai dit, mais tu comprends pas que je suis pas malade psychologiquement, j'ai juste besoin d'aide parce que j'ai eu un accident. »
Vous avez eu un accident et ça n'était pas de votre faute.
Ben voilà.
C'est quoi en fait, ces relations que vous avez avec... ça allait avant qu'il arrive tout ça,
oui.
Les relations que vous aviez avec votre frère, votre père?
Oui. Alors mon père a pris ma défense. Hein. Mon père a tout de suite dit à mon frère qu'il faisait n'importe quoi et qu'il pourrait le regretter. Donc mon père, là-dessus, il a été vraiment très très bien. Mais il ne voulait pas s'opposer à mon frère, parce que mon frère était dans un état de violence et sous l'effet de l'alcool.
Il avait bu.
Oui, donc, il avait bu.
Mais vous savez, à partir du moment où des gens ont bu, ils perdent beaucoup de leur libre arbitre, ils perdent la boule. Et les émotions sont complètement déformées. Et évidemment que vous n'auriez pas dû les suivre et qu'à l'hôpital, ils ont dû remarquer qu'ils avaient bu, c'est certain.
Oui. Après, voilà, moi, sur le retour des trois hôpitaux où ils m'ont amené, j'ai espéré rencontrer une patrouille de gendarmerie qui fasse un test d'alcoolémie. Je m'étais dit que c'était ma seule solution pour qu'au moins le 25 au soir, je puisse mettre en lieu sûr pour leur expliquer ce qui m'arrivait. Oui. Malheureusement, on n'a rencontré personne sur la route. Donc, j'étais obligée de rentrer chez ma sœur. Où là, voilà, donc comme je vous disais, ils m'ont remis de nouveau dans une espèce de petit salon. C'est des maisons en meulière, vous savez, des maisons un petit peu à l'ancienne qu'on voit en région parisienne avec des étages, c'est des maisons à trois étages, donc il y a plusieurs petites pièces. Et là, ils m'ont enfermé dans le salon, donc pendant encore une demi-heure, on a fini par m'achever, je crois, définitivement.
Mais je ne comprends pas, c'était quoi ces petites maisons en fait
C'était chez... la maison de ma sœur, en fait.
Ah oui, d'accord.
C'est là où ma sœur, ouais. Okay. Parce que ma sœur, en fait, avait réuni la famille pour Noël, en fait, à la base.
D'accord. Et voilà, ça se passe où, dans quelle région, tout ça?
À Fontainebleau.
Fontainebleau, d'accord.
Voilà.
Et vous dites les relations, donc, avec votre famille sont plutôt normales, d'habitude?
Bah, avant, oui, elles étaient normales, ouais. Jusqu'à ce qu'arrive ça, en fait. Enfin, moi, j'ai toujours été la petite sœur de mon frère. Ça a toujours été, il m'a toujours considérée comme ça. Enfin, il a toujours voulu me protéger. Et là, je ne sais pas pourquoi.
Alors, écoutez, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'alcool? Vous savez, par moment, à un moment X de sa semaine ou de son mois, avant, là, c'était quand même vers le 24-25 octobre, vous m'avez dit. Donc, peut-être que votre frère...
C'est 25 décembre, c'est pile au moment de Noël.
D'accord, bah peut-être votre frère était fatigué, peut-être qu'il était dans un état de stress particulier. En tout cas, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais l'alcool, visiblement, lui a fait complètement péter les plombs pour qu'il soit violent.
On m'a parlé de bouffée délirante.
Non, il ne faut peut-être pas pousser bouffée délirante. Il avait beaucoup bu, visiblement, c'est ce que vous m'avez dit. Ils avaient commencé la veille. Je pense qu'il avait fatigue plus alcool sur le... Le long terme, hein, c'est-à-dire presque 48 heures d'alcool. Je pense que vous pouvez faire n'importe quoi hein, quand vous consommez de l'alcool comme ça pendant 48 heures et que vous êtes fatigué. Il n'avait jamais fait ça avant votre frère.
Alors non, pas vis-à-vis de moi. Par contre, vis-à-vis de ses enfants, il avait déjà eu des actes de violence vis-à-vis de ses propres enfants, en fait.
Ah oui.
Voilà. Donc il a quand même... Et toujours sous l'effet de l'alcool, en fait.
Parce que si vous voulez, une bouffée délirante... peut venir avec de l'alcool, mais si vous voulez une bouffée délirante, c'est vraiment un comportement désordonné. Vous voyez, ça peut être des hallucinations, ça peut être... Est-ce que ça se rapportait à ça, ce que vous avez vu ce soir-là?
La suite, en fait, voilà. En fait, la suite de tout ça, c'est que... comme je vous disais, j'avais plus rien. À un moment, ma sœur lui a dit, écoute, maintenant, arrête, elle a compris. Donc, rends-lui au moins son sac à main. Parce que j'avais plus rien, j'avais plus de contact avec l'extérieur, donc j'étais vraiment bloquée chez eux. Et en fait, quand j'ai pu récupérer mon sac à main, donc c'était le 25 décembre de l'année dernière, il neigeait d'ailleurs à Fontainebleau, et en fait, ma seule réaction, ça a été de sortir de la maison et de fuir, parce que je savais que j'étais en danger. Donc je me suis retrouvée en fait dehors, à 23h, avec mon sac à main, juste un petit gilet, caché derrière une voiture. J'ai appelé mes parents pour leur dire... je suis cachée derrière une voiture, je ne sais pas où je suis. J'ai peur, Stéphane est complètement fou. Pardon, excusez-moi, j'ai dit non, mon frère, c'était pas le but. Voilà, il est complètement fou. Il veut me faire interner. Demain, il veut me ramener de nouveau dans les hôpitaux. Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer sur Aix-en-Provence.
Votre fille était où à ce moment-là, chez vos parents ?
Eh ben, mes enfants étaient chez ma sœur également.
D'accord. Bon.
Donc, mais ils étaient avec les cousins, cousines. Donc, quelque part, si vous voulez, bon, ils étaient. Ils voyaient ce qui se passait, mais avec le fait d'être avec les cousins-cousines, ils étaient un peu dans les chambres enfermés. Donc, ils ont tout vu. D'ailleurs, mes enfants aujourd'hui ne veulent plus voir mon frère et ma sœur. Enfin, c'est terminé. Ils ont vu le mal qu'ils m'ont fait.
Quel âge ont-ils, vos enfants ?
Ils ont 16, 17 et 18.
Bah, vous m'étonnez qu'ils ne veulent plus voir ces gens-là. C'est tout à fait normal. Imaginez des ados. Qui connaissent leur mère et on a voulu l'enfermer.
Surtout que je me suis occupée de mes enfants toujours toute seule. J'ai toujours assumé toujours toute seule mes enfants.
Laetitia, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Tout ce qui s'est passé là est indépendant de votre volonté. Vous comprenez ? Il faut vous dire que vous ne pouviez avoir aucun contrôle à ce moment-là sur l'état de votre frère, sur sa manière d'agir. Je pense que vous avez même eu peur du comportement de votre frère.
Oui, parce qu'il m'a séquestré après. En fait, mon père l'a appelé.
Il est fou, votre frère.
Pour lui dire, voilà, il faut que tu baisses d'un ton parce que ta sœur ne veut plus rentrer. Elle a peur. Elle est terrorisée. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais réussi à avoir la police au téléphone.
Oui.
Et la police m'a dit, écoutez, tant qu'il n'y a pas de violence proprement dit, on ne peut pas intervenir pour l'instant. Par contre, on sait que vous êtes en danger, donc on va rester en contact avec vous et on va vous appeler toutes les heures pour savoir comment évolue la situation.
D'accord, le commissariat de Fontainebleau.
Voilà, le commissariat de Fontainebleau. Donc du coup, suite à ça, je suis rentrée chez ma sœur. Et là, en fait, mon frère m'a dit, en fait, on ne veut même plus te voir. Donc maintenant, tu montes dans le grenier. Tu vas te mettre là-haut puis tu vas attendre qu'on te donne les instructions et qu'on te dise les choses.
Tout ça parce que vous aviez perdu du poids depuis votre accident.
Oui,
mais il est, absolument. Laetitia, vous êtes avec moi ce soir.
Oui.
Vous m'avez expliqué ce qui s'est passé. Si je vous demande là, si vous considérez que votre frère a eu un comportement normal ce soir-là, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, parce que la police et la gendarmerie, ce que j'ai eu les deux, m'ont dit que j'étais séquestrée par mon frère
bien sûr.
Et par ma sœur, et que c'était une séquestration et que je pouvais porter plainte contre eux.
Mais vous n'allez pas porter plainte du coup, ou qu'allez-vous faire ?
Non, je ne le fais pas pour mes parents, parce que je veux pas gâcher la...
Vous avez raison.
Parce que mes parents, ça sont 13 ans et je ne veux pas gâcher la
suite contre, pour eux. Par contre, moi, je vous engage vraiment à marquer le coup, Laetitia, par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant un moment, vous dites à vos parents, écoutez papa, maman, si vous avez envie qu'on se voit, vous descendez me voir à Aix-en-Provence. Ils ont les moyens, vos parents, de descendre à Aix-en-Provence, venir vous voir et voir les petits ? Enfin, les petits qui sont grands. Hein. Bon, voilà, pour l'instant, je pense qu'il est... Pour vous, c'est vital que vous ne croisiez plus ces gens-là. Votre frère et votre sœur aussi. Il est. Vous me dites tout là, Laetitia.
Ah ben oui, non, mais attendez, c'est-à-dire qu'en fait donc j'étais en contact avec la police donc de Melun ou de Fontainebleau, je sais plus, parce que soit c'est la gendarmerie ou soit c'est la police. Quand la gendarmerie ferme, en fait, ça bascule entre Melun et Fontainebleau. Donc je sais plus lequel. J'avais au téléphone, j'étais tellement pétrifiée que simplement le fait d'avoir les forces de police au téléphone, c'était ce qui comptait le plus pour moi. Donc en fait, toutes les heures, ils m'appelaient pour que je trouve une solution pour pouvoir en fait m'enfuir de chez mon frère et de ma sœur. C'était la seule solution en fait que je puisse dans l'immédiat pour pouvoir me sauver entre guillemets. Donc comme je suis une ancienne hôtesse de l'air, j'ai réussi à prendre un billet d'avion tôt le matin. Et moi, je les avais entendus tout le soir. Alors moi, j'étais enfermée dans le grenier, hein, donc j'ai rien eu, hein, pas une bouteille d'eau, enfin rien du tout.
C'est fou, c'est fou. Enfin,
Et moi, je les entendais en dessous, qui continuaient à rigoler et qui picolaient, qui continuaient à boire de l'alcool. Et en fait, c'est mon fils.
C'est mon deuxième garçon qui a toujours été très proche de moi, qui me dit « Tiens maman, je te ramène ton sac à main. Comme ça, tu pourras prendre tout ce qu'il faut, tes billets d'avion. » Il m'a dit « Tu nous laisses ici pour l'instant et tu verras ce que tu pourras faire pour nous après. » Donc en fait, j'ai sauvé ma peau déjà moi. Donc j'ai réussi à trouver un billet d'avion. J'ai réussi à trouver un taxi qui a tourné jusqu'à 4h. Normalement, il tournait jusqu'à 4h du matin sur Paris. Et que j'ai expliqué ma situation. Et il m'a dit, écoutez, à 6h, je suis là. Et à 6h, je vous amène à l'aéroport d'Orly. Et comme ça, vous pourrez prendre votre avion et vous serez en sécurité.
D'accord, et c'est ce qui s'est passé ?
Et bien, à 6h, il m'a appelé 3 fois. Malheureusement, je m'étais endormie.
Oui.
Et à 6h05, inconsciemment, mon cerveau s'est réveillé. Donc là, je l'ai rappelé.
Mmh.
Et en fait, il m'a dit, bah, c'est bon, j'arrive et je viens vous chercher. Et alors là, ça a été juste... Il a fallu que je sorte de ce grenier.
Oui.
En plus, c'était des escaliers en bois. Donc, j'avais 3 étages à descendre avec des escaliers en bois. J'avais 4 chiens qui m'attendaient en bas. Ils avaient tout barricadé. Ils avaient fermé les portes à clé. Ils avaient fermé les fenêtres à clé, les volets à clé. Et en fait, comme je suis pompier, la seule chose qui m'est donnée d'instinct, c'est de me dire l'endroit qu'on ne peut pas fermer complètement, c'est la cuisine. Parce que si, en cas d'un problème, il faut toujours qu'on puisse aérer le plus rapidement possible.
Oui.
Et j'ai réussi à trouver en fait un volet ouvert qui ne pouvait pas fermer, verrouillé.
Mmh.
Et en fait, j'ai sauté de 2 mètres de haut, parce que comme c'était une maison en pente, j'ai réussi à sauter de 2 mètres de haut par rapport à la cuisine de la maison. Mais j'étais sans chaussures, sans rien, parce que je ne voulais pas faire de bruit. Donc j'avais tout jeté à travers la fenêtre de la cuisine. J'avais jeté mon sac à dos à 6 heures du matin. J'ai remis mes bottes. Heureusement, ils n'avaient pas fermé le portillon. Et là, mon intuition a été de me dire, c'était une rue en descente, je me suis dit, si je vais vers le bas, je vais aller vers la campagne. Si je vais vers le haut, je vais certainement retourner vers la terre. Je ne connaissais pas Fontainebleau.
Oui, oui.
Et en fait, j'ai couru jusqu'à temps de trouver un bar tabac qui était ouvert. Et je leur ai expliqué, voilà, je leur ai dit, écoutez, je suis en contact avec la police. Ils veulent que je sois à l'abri. Et par chance, c'est des gens qui venaient d'Aix-en-Provence qui étaient là pour remplacer leur fille qui était partie en vacances.
Non, super.
Donc, et du coup, ils m'ont caché dans l'arrière-boutique jusqu'à temps que le taxi arrive.
Mais...
Et quand je suis rentrée dans le taxi,
oui.
Là, je savais que fait, j'étais sauvée. Quoi.
Vous n'en avez jamais parlé à personne de ce qui s'est passé ce soir-là, me dit Florian.
Non.
Est-ce que votre frère et votre sœur avaient déjà eu un comportement comme celui-ci avec vous ?
Oh, mais ma soeur, elle a toujours été très jalouse de moi.
Mmh.
Et mon frère, il a toujours... Moi, j'ai divorcé très jeune.
Oui.
J'ai divorcé, j'avais 30 ans, parce que j'étais avec un mari qui était plutôt dans la violence avec moi. Il avait 18 ans de plus que moi, donc il avait une emprise sur moi qui était... Et comme je suis une femme de caractère et que je me laisse quand même normalement pas faire, j'ai pris mes 3 enfants sous le bras et je suis partie avec rien et j'ai recommencé ma vie à 30 ans avec mes 3 enfants. Voilà. Et du coup, ils ont toujours eu l'impression, en fait, que, je sais pas, que peut-être que, comme j'avais pas une vie normale, c'est-à-dire que j'étais pas mariée, que j'avais divorcé, que j'étais pas dans les clous comme tout le monde, peut-être que j'étais le vilain petit canard de la famille, en fait.
Oui.
C'est un peu comme ça que je vois les choses aujourd'hui, comme si j'étais un peu un boulet, en fait, pour eux.
Oui, mais bon, ce qu'ils pensent, eux, ne doit pas aujourd'hui vous faire quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a un an maintenant, il faut vous débarrasser de tout ça parce que vous n'y êtes pour rien, absolument pour rien. Et malheureusement, ces gens-là vont, si vous les fréquentez à nouveau, ils recommenceront à faire ce genre de choses. Ils recommenceront à. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui, de toute façon, pour moi, c'est clair. Je ne vais plus les voir. Enfin, et comme j'ai dit à Florian, bon, malheureusement, c'est ça. J'ai rebondi quand même malgré tout derrière. J'ai trouvé un travail en tant que monitrice d'équitation dans le Var. Donc, j'ai encore mis de... En fait, plus je m'éloignais d'eux physiquement et plus je me sentais en sécurité.
Bien sûr, vous
m'étonnez. Et là, malheureusement, j'ai...
Je vous entends pas, je vous perds là en fait. Vous avez dû vous éloigner de.
Non, je bouge pas, c'est juste mon réseau qui est pas très très bon.
D'accord.
Vous me dites.
Et voilà. Je n'ai pas compris. Vous avez trouvé donc.
J'ai trouvé un travail en tant que monitrice d'équitation dans le Var.
Oui.
Euh, Et en fait, le 25 août, j'ai eu un accident. J'ai un cheval en fait qui m'a jeté en fait le postérieur dans la jambe. Il voulait toucher en fait la jument que je montais. Sauf qu'en fait, j'ai une fracture complète de la jambe. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve en plus complètement handicapée. J'ai eu trois opérations. J'ai eu une infection staphylocoque à l'hôpital. Voilà, donc tout ça fait que...
Tout ça, c'est accumulé. Bon,
voilà,
écoutez,
ça, accumulé.
Je vais être obligé de vous quitter dans peu de temps, donc, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir.
Bien sûr, je comprends.
Premier conseil, pour l'instant, vous mettez de la distance entre vous et votre sœur et votre frère. Le premier objectif pour vous, c'est vos enfants, comme ça l'est depuis longtemps. Ensuite, c'est vous, Laetitia. Et j'ai envie de dire que c'est kiff-kiff, hein, parce qu'il faut que vous fassiez attention à vous. Il faut que vous remontiez la pente, que ça aille mieux pour vous, parce que ça ira mieux pour vos enfants, parce que ça doit les inquiéter aussi. Ils sont en âge d'être inquiets vraiment pour vous. Vous voyez, ce sont des adolescents. Vous avez une petite famille, là. Vous êtes à Aix, profitez-en. Vous retrouverez du travail, vous avez su rebondir après le boulot. C'est le boulot d'hôtesse de l'air que vous avez perdu ?
Non, j'étais hôtesse de l'air, après je me suis arrêtée pour mes enfants pour m'occuper d'eux.
Oui.
Et là maintenant je suis monitrice d'équitation.
D'accord, bon. Vous retrouvez du travail, vous êtes de la débrouille. Et ce qui est important, le premier objectif dans les semaines qui viennent, hein, les mois qui viennent, c'est de vous remettre sur pied et de vous remettre bien dans la tête. Donc occupez-vous de vous, occupez-vous de vos enfants, et puis oui. Mettez de la distance entre ce frère et sa sœur avec lesquels vous ne devez plus avoir aucun contact. D'accord ? Quitte, bien évidemment, à pas froisser, mais faire de la peine un peu à vos parents, mais soyez ferme là-dessus. Vous leur expliquez que ce que vous avez vécu est extrêmement traumatisant, que ça vous a traumatisé et que vous ne voulez plus jamais vivre ce genre de choses et que vous ne pouvez plus, en tout cas pour l'instant, voir ce frère et cette sœur. Et que s'ils veulent vous voir, s'ils veulent voir leurs petits-enfants, eh bien, Aix, hein, c'est agréable, ils peuvent venir descendre et que voilà, vous pourrez passer des moments ensemble et des moments calmes. Ce qui vous est arrivé n'est absolument pas de votre faute. Vous avez parfois, la vie, c'est comme ça. Hein. On enchaîne les galères, vous voyez ?
Voilà, je vous dis quelque chose, c'est que là, je suis en rééducation au CERS à Fréjus, donc qui est un centre assez connu pour les sportifs.
Avec des sportifs de haut niveau. Ouais.
Et en fait, on m'a mis à disposition une rencontre avec une psy. Et en fait, son diagnostic est un syndrome de stress post-traumatique que je traîne en fait depuis Noël.
Voilà. Bon, mais vous m'étonnez. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit ce soir. Donc, continuez à voir cette psy aussi, échanger avec elle. Et puis, vous allez voir, les choses vont s'améliorer petit à petit. Et puis, redonnez des nouvelles hein, d'ici 15 jours, 3 semaines. Vous voulez bien ?
D'accord. Hein ? D'accord, avec plaisir.
Vous savez où nous trouver de toute façon. Même si vous avez un coup de mou, hein, vous nous appelez. D'accord ?
D'accord, et puis, on échange. Bien parce que... Hein ? D'accord, ok.
D'accord.
Écoutez, je vous remercie. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe et merci à Florian et puis merci Olivier de m'avoir écouté parce que moi je vous adore et je vous suis tout le temps voilà, j'ai osé décrocher mon téléphone ce soir.
Vous avez très bien fait Laetitia et puis là maintenant vous connaissez le chemin donc je suis là et puis nous sommes tous là, d'accord ?
Merci Olivier.
Je vous embrasse Laetitia.
Merci. Au revoir. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 42 sur Europe 1 et avant de prendre Anaïs, petit rectificatif à l'intention de Marie qui m'écrit « Bonsoir Olivier, les psychiatres ne sont que très rarement formés à la psychothérapie, c'est rarissime. Non, un psychiatre ne fait pas le même travail qu'un psychologue. » Alors Marie, vous savez, j'ai pour habitude de bien expliquer ce que je dis sur cette libre antenne ou dans la vie en règle générale. Si vous écoutez demain ce que j'ai dit que parfois les psychiatres délivraient le même service qu'un psychologue, c'est-à-dire la même prestation, hein, on va l'appeler comme ça, on va poser ce mot-là. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc je peux vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des psychiatres qui font exactement le même travail qu'un psychologue lorsqu'il s'agit d'une demande de la part de quelqu'un qui ne va pas bien ou qui veut évoluer sur différents secteurs de sa vie et qui désire un échange. parler, échanger avec quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement et qui va l'aider, comme ça, à déjà déposer ce qu'il a à déposer. Et puis ensuite, essayer de, d'évoluer, de cheminer avec lui. Donc, désolé, je n'ai jamais dit que les psychiatres étaient formés à la psychothérapie ou inversement. J'ai dit simplement que certains faisaient finalement la même chose que certains psychothérapeutes. J'espère, Marie, donc, que vous aurez compris ce que je voulais dire. On accueille Anaïs maintenant au 3921. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Bonsoir. Anaïs, peut-être ne voulez-vous pas préciser d'où vous appelez, mais je vais vous demander votre âge, s'il vous plaît.
Alors, j'ai 38 ans. Oui, alors, j'ai pas, effectivement, je ne vais pas préciser d'où je viens, mais oui. J'ai 38 ans.
D'accord. Dites-moi ce qui vous amène, Anaïs.
Alors, voilà, moi, je voulais en fait témoigner parce que j'ai été victime d'inceste et de viol pendant plus de 15 ans. Ça a détruit ma vie, ça a détruit beaucoup de choses. Et il y a 8-9 mois, une de mes sœurs, ma sœur jumelle, en fait, m'a communiqué au détour d'une soirée qu'elle a fait avec une copine, d'une copine, le numéro et le nom d'une victimologue. Donc, c'est une psychotraumatologue. Et ça a changé ma vie. Et là, je suis en train de renaître et je voulais absolument en fait témoigner parce que j'écoute cette émission bien avant aussi que vous soyez là. J'ai beaucoup, beaucoup écouté les émissions d'Europe 1 la nuit. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup envie d'appeler sur mon mal-être, mon malheur. Là, je me suis dit, il faut que j'appelle parce que c'est une renaissance. Je revis, c'est une nouvelle vie et en fait on ne connaît pas assez ce métier. C'est quelque chose que même certains spécialistes de la santé ne connaissent pas et c'est un métier à connaître pour toutes les personnes qui sont victimes.
De traumatisme. Marie d'ailleurs au 739-21 nous a écrit durant le témoignage de Laetitia, elle dit que Laetitia a besoin d'un suivi avec un psychologue traumatologue. Marie nous dit qu'elle a vécu une séquestration par son ex-mari et qu'elle s'en est sortie grâce à une psychologue traumatologue. Donc vous voyez, Anaïs, c'est un peu connu hein, quand même.
Alors un peu, mais pas tant que ça.
Pas assez, vous avez raison.
Pas assez, c'est ça. Parce que moi, en tant que victime d'inceste, en fait pour moi, les psys, c'était pas fait pour moi. Je voyais pas en fait l'intérêt d'y aller. Pour moi, c'est fait pour les personnes qui ont des mal-être qui sont plus légers. Et vraiment, je ne me voyais absolument pas aller voir un psy.
C'est votre ressenti.
C'est mon ressenti. Oui, absolument, c'est mon ressenti. Mais je ne parle que pour moi, que pour ma vision. Et en fait, quand j'ai entendu parler de victimologue, je me suis dit oui. Bah là, en fait, elle va être apte à m'écouter. Et même si les psys en règle générale sont aptes, hein, mais là, c'est vraiment une fonction qui est beaucoup plus poussée dans la victimologie.
Alors, expliquez-moi en quoi c'est plus poussé.
Parce qu'en fait, pour moi, elle m'a expliqué en fait tous les mécanismes de la victime. Le refus, le déni, la honte. Alors là, pour le coup, c'était l'inceste et le viol qui a duré en plus très longtemps, qui ne s'est arrêté que parce que la personne, enfin c'était mon beau-père, que parce qu'elle est décédée. Donc j'ai même pas pu en fait, le contrer, porter plainte ou parce que je vivais dans la peur, je vivais dans la honte. Et en fait, tout ça, elle a réussi à le décadenasser et à m'expliquer aussi pourquoi.
D'accord.
Et oui.
Avant, en fait, personne n'avait tenté ce qu'elle est arrivée à faire.
Alors, non. Alors, j'ai rencontré mon compagnon il y a 6 ans. Je m'étais toujours dit, le jour où je rencontre l'amour de ma vie, le père de mes enfants, je lui raconterai parce que c'est important pour qu'ils comprennent en fait ma personnalité aussi, hein, parce que c'est très compliqué en fait de vivre tout ça quand on rencontre quelqu'un et qu'il ne le sait pas, en fait, il ne comprend pas certains.
Vous n'en aviez jamais parlé, par exemple, à votre mère, parce que souvent on évoque ça avec les gens qui sont censés nous protéger. Donc les parents viennent généralement au premier rang de la protection.
Alors, Oui, si. Ma mère, en fait, a été au courant, mais de manière assez brutale aussi, hein, parce que quand j'étais au lycée, je me suis confiée à une copine de lycée, et en fait, cette copine, on a parlé à l'infirmière, ce qui est tout à fait normal. Sauf que donc l'infirmière a mis les choses en route, a appelé la gendarmerie. J'ai été mis dans un tourbillon tout de suite. Mais quand on a 15-16 ans, bah c'est extrêmement violent. Donc j'arrive à la gendarmerie, je donne les premiers récits en fait. Et ma mère a été appelée forcément avec mon beau-père, ont été appelés. Et puis en fait quand ma mère est arrivée, elle m'a glissé à l'oreille de me rétracter.
Oui, d'accord.
Voilà, donc en fait, après, elle était aussi victime, elle, de son propre mari, puisqu'on vivait sous la terreur avec lui. Hein. Mais, et puis après, c'était, tu te rends compte, si tu avais parlé, la famille aurait explosé, toute la fratrie aurait été dispersée, tu te rends compte de ce que tu aurais pu faire. Donc en fait, ça commence. Il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Là, ça a été une erreur. Donc, en fait, ça a duré. Et puis moi, mes autres sœurs, parce que moi, je suis l'aînée. Ma mère s'est mariée donc deux fois, quatre enfants d'une première union, quatre enfants d'une deuxième union. Et en fait, moi, j'étais un peu la seconde maman. Et en fait, moi, j'ai essayé de protéger mes sœurs. Parce que je savais que mon beau-père commençait un petit peu tout doucement à aller. J'étais peut-être la plus fragile ou je sais pas, mais c'était sur moi qu'il avait mis tout son dévolu. Et en fait, j'ai essayé de protéger mes sœurs. Donc à chaque fois qu'il fallait, comme on était très nombreux, on partait pas tous en même temps. Je restais systématiquement pour pas laisser une autre de mes sœurs seule avec lui au cas où. Et en fait, tout doucement, en fait, c'est très pervers en fait, mais ça s'instaure. Le fait de rester et ça ce qui a été le plus terrible après, ça a été en fait peut-être au final que c'était pas si terrible, peut-être qu'au final ça lui déplaisait pas tant que ça, peut-être qu'au final ça a été le pire de tout.
Vous m'étonnez que ça a été le pire de tout.
Mais alors aujourd'hui, enfin je le dis parce que ça peut paraître assez étrange que je le dis sans pleurer, mais j'ai tellement travaillé sur moi et ce travail avec cette psychotraumatologue a été tellement merveilleux qu'en fait aujourd'hui je peux en parler sans vomir, sans pleurer, sans vouloir avoir envie de mourir. Mon témoignage c'est ça, c'est surtout les personnes qui sont victimes, qui n'osent pas parler. Et il y a des personnes qui sont là pour vous faire revivre. Et moi, j'en voyais pas le bout parce que j'avais beau être heureuse avec mon chéri. J'ai eu une fille que j'ai eu du mal à voir, mais j'ai eu ma fille. Mais même malgré ça, il y a eu des moments qui ont été absolument atroces. Et il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Il y a des personnes qui vont décadenasser. Même la plus grosse de mes hontes, j'ai pu le dire. Et en fait, elle a décadenassé, elle m'a expliqué. Et c'est ça qui, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en pleure pas.
Mais Anaïs, au bout de combien de séances êtes-vous arrivé à avancer, à commencer à lâcher les choses? Est-ce que ça a été rapide ou est-ce que elle vous a amené progressivement à parler?
Alors moi je suis tombée sur en tout cas une psy absolument exceptionnelle parce que j'étais prête. Alors attention, j'étais prête puisque j'en avais déjà parlé à mon chéri. Je lui avais déjà parlé, donc en fait j'étais prête à parler parce que j'avais déjà fait le pas avec lui. Mais lui c'est pas un professionnel et à un moment donné lui-même il me disait stop, j'en peux plus. Il se mettait à pleurer, c'est pas quelqu'un qui pleure beaucoup, et il me dit là c'est trop, c'est beaucoup trop, j'en peux plus, c'est trop horrible. Donc ma parole était déjà de toute façon était déjà ouverte. Donc mais dès la première séance elle m'a mis à l'aise et à la deuxième c'était parti. C'était parti et c'est vrai que je la voyais à peu près toutes les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines.
Oui.
Mais c'était important au début qu'il y ait un gros. Forcément, mes moyens me permettent de pouvoir, enfin, d'avoir pu la voir assez, assez facilement. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, moi, j'ai pu aller vite. Et comme elle m'a dit, en fait, je ne me suis pas complainte dans mon traumatisme. Et j'ai voulu aller, j'ai voulu combattre tout. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir aller vite.
Oui.
Mais ça m'a tellement changé la vie, si vous saviez, mais à quel point. Quand à un moment donné, il y a eu un point clé où, en fait, là, tout d'un coup, tout a changé. J'ai eu l'impression que l'air que je respirais était différent. J'étais une grosse fumeuse. Je suis devenue une toute petite fumeuse. Je reste encore à 3-4 cigarettes, mais tout a changé. Je buvais beaucoup, j'ai arrêté, je buvais beaucoup pour dormir. Je m'alcoolisais pour dormir parce que je n'y arrivais pas autrement. Et en fait, tout a changé. Il y a eu un déclic et tout a changé.
C'est formidable, hein. C'est formidable parce que c'est, je suppose que vous êtes passé par des moments de désarroi, oui. Des moments sombres.
Ah oui, parce que par contre, oui, alors que ce soit avant ou pendant pendant les séances, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu envie de mourir, hein, tellement je souffrais, tellement c'était... c'est tout, parce qu'en fait, une fois que ça remonte, bah, on ne peut plus arrêter le processus, ça remonte, c'est pour ça qu'en fait, il fallait que je la voie aussi, et il fallait que je lui en parle, il y a eu des moments où vraiment, il y a un pont qui n'est pas très loin de chez moi, je me suis vue juste au-dessus, et c'est même ma fille, enfin, c'était la toute petite étincelle qui me retenait. Mais oui, il y a eu des moments d'extrême souffrance et mon mari était complètement, enfin, mon futur mari était complètement impuissant à ma souffrance. Il savait même plus quoi faire. Je ne le voulais pas de lui, mais des fois, il fallait qu'il soit là et il savait pas. Il était complètement désarmé.
Oui.
Mais il y a eu des gros, gros moments de souffrance, mais ces moments de souffrance, je les regrette tellement pas par rapport au résultat, en fait.
Mmh.
Et c'est pour ça, en fait, et je me dis, en fait, ce métier, alors peut-être que vous le connaissez un peu plus parce que vous avez affaire à des personnes qui souffrent, mais moi, j'ai pas dans mon entourage des personnes qui souffrent comme ça.
Non, c'est
heureusement.
Vous avez vécu quelque chose d'abominable. Hein, et même si, malheureusement, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, hein, ces histoires d'inceste.
Oui.
On sait combien c'est difficile à raconter et à qui raconter cela, en fait. Donc,
et à qui raconter.
Ouais. Oui. Donc, vous avez eu... Et c'est venu comment, en fait vous me l'avez dit, il me semble, c'est une amie qui vous a fait rencontrer cette psychologue traumatologue.
C'est l'amie d'une amie de ma sœur jumelle qui en a parlé à une soirée, alors, tout bêtement.
Oui.
Et ma sœur m'a dit, ah, attends, c'est ma sœur jumelle qui m'a dit, attends, j'ai le nom d'une psychotraumatologue.
Oui.
Et là, elle m'a dit, je crois que c'est fait pour toi. Parce qu'en fait, dans toute ma famille, aujourd'hui, je ne leur parle plus. Enfin, il y a eu forcément beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que de toute façon, toutes les familles... où il y a eu de l'inceste, c'est très compliqué.
Mmh.
Entre ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui se cachent, ma mère qui se voile les yeux, qui pour elle est une bonne mère et a fait ce qu'elle a pu, les enfants qui prennent parti, et puis en fait, bah, moi sur toute ma fratrie, j'en vois plus que deux, ma soeur jumelle et une autre frangine qui s'est éloignée aussi, et en fait, bah, j'en vois plus que deux, et c'est moi, pour moi, c'est ma famille, c'était tout. Hein. C'est vraiment tout. Je serais morte pour eux. Mais là, j'ai appris en fait qu'il fallait que je vive pour moi. Et c'est là la grosse différence. Parce qu'avant, j'avais honte. Parce qu'avant, j'étais pas bien. Parce qu'avant, peut-être qu'au final, c'était peut-être un peu de ma faute. Peut-être qu'au final, j'avais pas fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'au final, et en fait, non. Et aujourd'hui, bah, ça a changé beaucoup de choses. Alors, j'en ai perdu. Hein. J'en ai perdu dans l'eau. Mais c'est pas grave parce qu'il me reste les meilleurs. Oui, ça a été dur, ça a été dur à...
Il vous reste les meilleurs, vous avez
admettre.
Raison. Il vous reste les meilleurs.
Ouais. Il me reste bah, ceux qui, voilà, ceux qui n'ont pas de jugement, ceux qui me comprennent, ceux qui s'inquiètent.
Mm-hmm.
Et bah, c'est tout ce qui me reste aujourd'hui. Mais c'est ce qui me va, en fait. C'est ce qui me va très bien.
En tout cas, ça fait du bien de vous écouter, Anaïs. Et je me réjouis vraiment pour vous que les choses se soient débloquées. D'abord parce que... parce qu'avec votre amour, ça a dû aussi débloquer tout un tas de choses, en tout cas faire évoluer tout un tas de choses.
Peut-être, mais je ne sais pas si c'est l'amour qui a fait évoluer, enfin, débloquer beaucoup de choses, mais en tous les cas, c'était vraiment ça ma parole, c'était mon témoignage par rapport à toutes les personnes qui écoutent, parce que j'ai écouté votre émission, j'ai écouté tellement d'émissions, et en fait, voilà, il y a des professionnels qui existent spécialisés. Mmh. Alors, les psys sont spécialisés, mais voilà, vraiment spécialisés dans la traumatologie. Et il ne faut pas hésiter à passer la porte. Mais moi, quand j'ai appelé cette victimologue, ça a été la preuve. Enfin, voilà, en 10 minutes, j'étais en train de pleurer au téléphone.
Oui. C'est la fin de l'émission. Je vous écouterai encore pendant de longues minutes, mais mille merci pour votre témoignage qui, j'en suis sûr, a résonné pour certains et certaines qui ont vécu ce genre de choses. Merci Anaïs mille fois. On vous embrasse et puis passez une bonne soirée et
merci beaucoup pour votre émission.
Bon vent dans la vie, je vous en prie. Au revoir Anaïs.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette émission qui fut courte mais qui fut vive en émotion. On se retrouve demain pour un horaire habituel, puisque demain, jeudi soir, on se retrouve à 22h30. En attendant, dormez bien, respirez bien, occupez-vous bien de ceux que vous aimez ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves. Et puis pour les oiseaux de nuit, une belle nuit. Et on se retrouve demain soir. Salut !